On va lire dans l'épître de Paul aux Romains. Alors, si vous êtes des habitués de cette église, vous savez qu'on va lire dans l'épître de Paul aux Romains. Parce qu'ils ont commencé une série. Vous savez, il y a des séries sur Netflix. Il y a Game of Thrones et puis plein d'autres choses. La particularité des séries, je crois, c'est qu'on devient accro. Et on a envie de savoir ce qui va se passer après. Et puis, si on a loupé un épisode, il faut vite qu'on regarde sur le replay, hein, si on peut voir ce qui s'est passé. Sinon, on sent qu'on va un peu perdre pied. Donc, dans la nouvelle série qui n'est pas encore sur Netflix, Romains, on est au chapitre 2 et versets 1 à 12. Je vous dirai quelques mots de ce qui se passe avant. Mais d'abord, on va lire Romains 2, versets 1 à 12. Donc, épître de Paul aux Romains, c'est dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, après les Évangiles. On a de suite la lettre de Paul aux Romains. Donc Romains 2, versets 1 à 12. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et que penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes, et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Je vous invite encore à la prière. On a prié pour les enfants, hein, il faut qu'on prie pour les grands. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole, te remercier pour cette série sur l'épître de Paul aux Romains, te remercier pour Paul, pour le temps qu'il a passé à écrire, en ayant le désir certainement d'être guidé par toi. Te remercier pour ton esprit aussi, qui veut nous aider à comprendre, Seigneur, et à retenir ce qui est bon. Te remercier pour tous ceux qui ont travaillé avant nous et qui nous aident à mieux comprendre ces paroles, Seigneur. Quand on lit en fait le chapitre 2, on comprend qu'il fait référence au chapitre 1. Il y a certaines versions qui disent « c'est pourquoi ?» On se dit « mince, il faut que je lise avant, qu'est-ce qui se passe avant ?» Et on sait qu'avant, il y a toute cette description terrible de Dieu par la plume de l'apôtre Paul sur l'humanité. L'humanité qui s'est détournée. Et Dieu les a livrés en fait à leurs désirs, à leurs passions. Hein. Et ils se sont vraiment éloignés de Dieu. Ils sont sous la colère de Dieu et ils sont sous le jugement. Dans le chapitre 2, ce qui est intéressant, c'est que je pense que l'apôtre Paul, il était vraiment très fort. Il s'est dit, bon, quand ils vont avoir lu le chapitre 1, ils vont se dire, ouais, ça c'est les autres. Et nous, on n'est pas pareil. Et de suite, dans le chapitre 2, qui es-tu, hein, qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Je trouve que c'est quand même assez impressionnant. Et moi, j'essaie toujours d'imaginer comment ça s'est passé le jour où ils ont reçu la lettre de Paul, où ils ont entendu la lettre de Paul. Parce que vous savez certainement qu'ils n'ont pas fait comme nous, hein. Quand vous recevez une lettre, vous ne dites pas « bon, on va regarder le premier verset, et la semaine prochaine, on lira la suite. » Ils ont lu toute la lettre de Paul, hein, et ça devait être quand même un sacré pavé qui leur est arrivé dans la figure et dans les oreilles. Toute la lettre de l'épître de Paul aux Romains, certainement qu'à un moment, ils ont dit « bon, ok, tu peux la relire une deuxième fois, ou alors on relira chez nous, on peut faire des copies, hein, de l'épître de Paul. » Mais ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il y a vraiment toute une progression, et l'esprit a accompagné l'apôtre Paul, pour qu'il puisse toucher le cœur de tous ces chrétiens de Rome. On pense que cette lettre, alors ça a peut-être été déjà dit dans les épisodes précédents, mais si vous étiez là, c'est une répétition. Si vous n'étiez pas là, ça vous fait du bien. On pense que cette lettre, c'est quand même une lettre générale. Elle est adressée aux chrétiens de Rome, mais c'est aussi une lettre où Paul fait une sorte de synthèse et de résumé assez génial de la foi chrétienne et de l'histoire du salut. Mais quand il en arrive au chapitre 2, donc je pense qu'il est en train de s'attaquer à ceux qui, après avoir entendu le chapitre 1, se disent « Bon, c'est vrai, ça quand même les hommes, le monde, c'est terrible. Les gens qui ne croient pas en Dieu, ils sont livrés à leur passion déréglée. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est terrible, qu'est-ce que les gens sont mauvais. Hein. » Et quand on dit ça, en général, on se détache du monde. Hein. « Oh, le monde va mal hein. Oh, le monde est méchant !» Et puis nous, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est une vérité biblique. C'est qu'on n'est pas meilleur que le monde. Et c'est qu'on est nous aussi sous le jugement et qu'on est constamment en train de juger les autres. Je pense que même des gens non chrétiens seraient d'accord pour faire un constat avec nous que le monde va mal. Le monde est méchant. Et peut-être même ça va de pire en pire. C'est-à-dire de pire en pire. Et on se demande même où ça va. On se demande si ça va durer longtemps. Même nos enfants. Moi j'ai des enfants, en tout cas pour mes grands, qui ont 15, 16, 17 ans. Ils sont un peu découragés de voir le monde dans lequel on vit. Où est-ce qu'on va? Alors il y en a un, c'est marrant, il me dit « Ouais mais papa, l'être humain il est quand même très fort, on s'en sortira toujours. Même pour les questions d'écologie, hein, ils vont inventer des trucs et on va s'en sortir, on va protéger la couche d'ozone. » Il me dit « Voilà, ça, c'est parce que l'homme il est très fort, il va trouver des solutions. » Mais selon les caractères, on est plutôt découragés. On dit « Vraiment les gens sont méchants. Vraiment les gens sont durs entre eux. » Et on le voit à l'école, et on le voit au travail, et on le voit même dans la famille. Et des fois on le voit dans l'église. Hein. Mais si on serait tous d'accord pour faire un constat, hein, pour dire que ça va mal, on oublie facilement que ça va mal en nous aussi, et que le mal est en nous, et qu'on est aussi sous le jugement de Dieu. Donc le premier sujet en fait, de ce chapitre 2, c'est évidemment le jugement. Et je pense que c'est important qu'on se dise, tiens, est-ce que je ne suis pas souvent en train de juger les autres, et de me détacher du monde, et de penser que je suis un peu meilleur que les autres. Et en même temps, il ne faudrait pas que cette question du jugement nous empêche aussi de dire, de parler et de faire des reproches. Vous savez que dans la Bible, il est dit aussi, si ton frère a péché, ben, reprends-le, va vers lui, aide-le, parce que finalement, c'est de l'amour. Si tu ne lui dis rien alors qu'il est en train de s'éloigner de la vérité ou du bon chemin, ben, tu manques d'amour vis-à-vis de lui. Et s'il ne t'écoute pas d'ailleurs, ben, retourne-y avec quelqu'un. Et s'il ne t'écoute toujours pas, ben, il faudra que l'Église fasse quelque chose. Évidemment, on comprend que dans ces textes, il s'agit de situations importantes. Et on est sûr de nous, on sait que cette personne est vraiment en train de s'éloigner de Dieu. Il y a plein de situations où ben, on ne va pas aller faire des reproches aux gens, parce que c'est peut-être pas si grave, ils ont fait des choix. Il y a deux choses bonnes, ils ont choisi une, ben, même si nous on n'est pas d'accord, on va les laisser tranquilles. On va simplement parler avec eux. Mais il y a des moments vraiment où on doit aller vers les autres et les reprendre. Et ça, ce n'est pas du jugement. Comprenez que pour nous, c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire juger. Quand on juge quelqu'un, c'est qu'on est dans un statut différent de lui. Hein. Celui qui juge, eh bien, c'est le juge, en général. Et le juge, il n'est pas accusé. Et nous, en fait, on n'est pas des juges. C'est Dieu qui est juge, et nous, on est tous des êtres humains. Et on est tous dans ce monde méchant, et on est tous dans ce monde mauvais. Et même si on a reçu le pardon de Dieu, on sait qu'on est libéré de l'esclavage du péché, et qu'on continue à pécher. On a été rendu capable par le Saint-Esprit de temps en temps hein, de résister au péché et de ne pas commettre le mal, mais il arrive évidemment régulièrement qu'on commette le mal. Si jamais on n'écoute pas bien ces paroles de l'apôtre Paul, on va se retrouver dans la même attitude, vous savez, que le pharisien qui fait sa prière. C'est cette belle petite histoire dans le Nouveau Testament hein, où il y a deux personnes qui font deux prières, et le premier c'est le pharisien qui dit « Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas fait comme qui est en train de prier à côté de moi là. Parce que c'est un péager, vous savez, péager déjà, rien que le métier, là, collecteur d'impôts. Il dit merci parce que tu m'as pas fait comme lui, là, parce que moi je suis ta parole. Et puis le péager en fait va exprimer qu'il a conscience de sa misère. Et il n'est pas en train de se comparer aux pharisiens, il est simplement en train de se comparer à Dieu. Seigneur, je ne mérite pas ton amour, je ne mérite rien. Et j'espère que tu vas accepter ma prière, et j'espère que tu vas m'entendre. Et Jésus, lorsqu'il raconte cette histoire, dit évidemment, parce que nous on connaît la fin de l'histoire, évidemment c'est cet homme qui a été entendu, c'est sa prière qui a été reçue. Parce qu'en fait il ne s'est pas comparé aux autres, il s'est comparé à Dieu. Et je pense que quand on juge quelqu'un, c'est qu'on se compare à lui et qu'on se sent meilleur. Et Dieu nous demande de nous comparer à lui hein, et pas aux autres. Ou alors de nous comparer à nous-mêmes. De voir les progrès qu'on a pu faire, ou les non-progrès qu'on a pu faire, hein, les difficultés qu'on a et la période de stagnation qu'on est en train de vivre. Dieu nous dit qu'on peut être fier, hein, fier de ce que Dieu a fait dans nos vies, fier de nos progrès. Mais il nous demande de ne pas nous comparer aux autres et de ne pas les juger. De ne pas nous sentir au-dessus d'eux, hein, avec cette attitude de juge vis-à-vis des autres. Donc on entend cette réalité dans ce texte, qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Et quand l'apôtre Paul dit que ceux qui jugent sont inexcusables, il reprend en fait le terme qui a été utilisé dans le chapitre 1 pour dire que les hommes sont inexcusables. Même ceux qui n'ont pas vraiment entendu parler de Dieu, devant les merveilles de la création, ils sont inexcusables. Parce que Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé en deux temps. Il s'est révélé par sa création. Normalement, même quelqu'un qui ne dispose pas de la parole de Dieu, de l'Écriture, pourrait découvrir Dieu dans la création. Vous savez, on a maintenant des possibilités d'entrer dans les merveilles de la création. Pareil, hein, avec le replay ou avec des séries. Il y a des documentaires, en fait, sur la création, sur le corps humain, sur la nature, sur l'espace, mais qui sont hallucinants. Et je pense que quand on regarde petit à petit ces documentaires, on est effaré. Et nous, qui avons déjà donné notre confiance à Dieu, évidemment, ça conforte, hein, notre amour de Dieu et notre conviction que non seulement Dieu existe, mais il est merveilleux. Comme David Sol l'a dit tout à l'heure, il est grand. Hein, et ce Dieu grand, il s'intéresse à moi. Je ne sais pas si je vous avais dit déjà, mais j'ai vu dans un documentaire scientifique et médical, un médecin en fait, qui s'émerveillait devant le travail d'un de nos organes. Je crois que c'était le foie, hein, ou le rein, je ne sais pas. Il disait, mais c'est une machine incroyable. C'est incroyable ce qui se passe dans le corps humain. Il dit, c'est génial. Et nous, quand on voit ça, on comprend que ce génie, il vient de quelque chose. Vous avez peut-être vu aussi, de temps en temps, sur Internet, il y a des petites pastilles qui nous sont envoyées qui sont des fois ridicules et pas intéressantes, et des fois vraiment rigolotes et très intéressantes. Il y a une photo d'un appareil photo, et puis d'un œil humain, décrit en dessin. Et puis on dit, voilà... L'athée croit évidemment que cet appareil a été construit par quelqu'un, l'appareil photo, mais il pense que cet œil extraordinaire a été construit par personne. C'est le fruit du hasard. Et nous, quand on regarde les deux appareils, et il compare, je crois, les millions de pixels, vous savez, d'un appareil photo et puis d'un œil humain. Et évidemment, c'est pas comparable. Alors, j'ai plus l'échelle en tête, mais je crois que c'est des millions de pixels pour l'œil humain. Et que c'est très très petit pour l'appareil photo, même le meilleur des appareils photo. Donc les hommes sont inexcusables, parce qu'en fait ils pourraient voir Dieu dans la création et ils ne le voient pas. Et au lieu d'adorer Dieu, d'ailleurs ils adorent la créature. Ils adorent des fois la création, parce qu'ils sont quand même émerveillés, mais ils ne veulent pas voir qui est derrière. Et ils adorent des fois les créatures, soit les autres, soit eux-mêmes. Et là, on nous dit que ceux qui sont inexcusables, c'est aussi ceux qui se croient meilleurs que les autres. Qui ont déjà connu Dieu, mais qui sont dans le jugement, dans l'orgueil. Qui n'ont pas compris en fait que cette connaissance de Dieu, ce n'était pas pour qu'ils se sentent meilleurs que les autres, c'était pour qu'ils soient sauvés et qu'ils soient une bénédiction pour les autres. Si Dieu s'est révélé à nous, si on le connaît maintenant, ce n'est pas pour qu'on devienne des juges pour les autres. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils ne vont pas bien, si jamais vous leur dites, bah, tu sais, tu devrais aller à l'église, ça sera du bien. Quoi ? À l'église ? Mais déjà, je me sens suffisamment coupable pour que je n'aille pas en plus à l'église, où je vais me sentir encore plus coupable, hein, où les gens vont mettre le doigt là où ça fait mal. L'église devrait être au contraire un lieu où on se sent accueilli, où on se sent bien. Ce matin, en fait, dans l'église à la rue Servan-Villiers, on prêchait sur l'évangile de Marc, chapitre 10, sur le divorce. Ce que Jésus dit, ce que Jésus répond aux pharisiens quand il lui pose la question, est-ce qu'on a le droit de divorcer parce que Moïse a écrit... qu'on pouvait répudier sa femme et avoir une lettre de divorce. Quand on examine les paroles de Jésus, quand on lit ce qui est dit aussi dans l'évangile de Matthieu, quand on lit ce que l'apôtre Paul dit dans la première lettre de Corinthiens, chapitre 7, on voit tout l'amour de Dieu qui nous demande de regarder à son projet, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, mais qui a conscience aussi de la dureté de notre cœur, qui nous montre qu'il n'y a aucun péché qui est impardonnable. Le divorce, comme tous les autres péchés, Dieu nous demande d'essayer de tenir bon. Dieu nous demande d'essayer de ne pas nous séparer. Il demande aux hommes d'essayer de ne pas répudier leur femme. Parce que dans ce texte, il s'agit juste, c'est les hommes qui demandent juste s'ils peuvent répudier leur femme ou pas. Hein, pour quelle raison, hein. Et Jésus les remet un peu à leur place. Vous savez que dans l'évangile de Matthieu, il y a même des disciples qui disent « Ah, mais si c'est ça, alors il vaut mieux ne pas se marier. » Parce qu'ils trouvent que c'est trop dur. Hein. Si vraiment il n'y a qu'une raison hein, de se séparer, si c'est l'inconduite sexuelle, et s'il n'y a pas d'autre raison, vraiment, c'est trop dur. Et Jésus répond, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si nous avons connu Dieu, si Dieu s'est révélé à nous, si en plus de la création, nous avons sa parole, nous avons commencé à la lire et nous commençons à la connaître, c'est pas pour nous sentir supérieurs aux autres. C'est pour être une bénédiction pour les autres. C'est pour que cette petite église devienne un lieu où quand les gens viennent, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'on est bien ici ? Qu'est-ce qu'on est bien accueillis ? Combien on nous a écoutés ? Et alors qu'on était plein de difficultés, alors qu'on a fait plein de bêtises dans nos vies, on ne nous a rien dit sur ça d'abord. On nous a aimés, on nous a accueillis, on nous a même donné peut-être des responsabilités. Et puis quand on a commencé à poser des questions, à dire « Bon, on vit ça et puis ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Ben oui, on nous a dit franchement ce qu'on en pensait. C'est ce qui devrait se passer. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus d'homosexuels dans l'Église. Ou de gens de mauvaise vie. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus ? Il mangeait avec les gens de mauvaise vie. S'ils rentrent dans notre Église, ça veut dire qu'ils vont sentir qu'il y a une possibilité d'être aimés, de discuter. Et ils vont sentir que dans ces communautés-là, il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de gens qui se sentent supérieurs et qui se prennent pour Dieu. Finalement, ce que l'apôtre Paul est en train de demander aux chrétiens de Corinthe, c'est ne vous prenez pas pour des dieux. Ne soyez pas des juges. Et puis, il y a un deuxième sujet qui me semble important dans ce chapitre. On est un peu obligé d'en parler parce qu'on est protestant. C'est que quand on lit le chapitre 2, les versets 1 à 11, on a l'impression que Paul, il se contredit un peu et qu'il dit même un peu des bêtises. Je ne sais pas si vous avez écouté, mais il dit, il me semble que c'est bizarre quand même, hein. Dieu traitera chacun conformément par rapport à ses actes, hein, en fonction de ses œuvres. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à la justice. On a quand même l'impression, quand on lit l'apôtre Paul, qu'on est sauvé par les œuvres. Hein ? Si on fait le bien, on a la vie éternelle, et si on fait le mal, on est condamné. Hein ? C'est étonnant parce qu'on sait qu'au début déjà de sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul nous dit qu'on est sauvé par la foi. Et puis dans toutes ses lettres, il nous dit qu'on est sauvé par la foi. Et même de temps en temps, il est un peu dur hein, avec ceux qui pensent qu'ils vont être sauvés parce qu'ils sont circoncis, parce qu'ils essaient d'obéir à la loi complètement. Hein. Donc on ne peut pas imaginer un seul instant que quand Paul écrit ça, ça veut dire qu'on est sauvé par les hommes. Alors qu'est-ce que ça ? Moi je crois que ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est que oui, on est sauvé par les hommes. Mais on est sauvé en fait par la foi qui produit des œuvres. Si on a la foi, si on a la vraie foi, hein, c'est ce que dit un peu l'apôtre Jacques, hein, on a pensé à un moment que Jacques et Paul se contredisaient, hein, qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'il y avait peut-être une dispute dans l'église entre Jacques et Paul. Mais ils disent la même chose. Simplement, ils mettent le curseur à l'accent sur un sujet ou sur un autre. À ceux qui ont tendance à se laisser aller parce qu'on est sauvé par la grâce, hein, il faut qu'on leur rappelle que c'est la grâce. C'est la foi, mais cette foi qui porte du fruit. C'est quoi une foi ? C'est quoi une confiance à Dieu si ça ne change rien dans notre vie ? Si ça ne se voit jamais ? C'est quoi un arbre qui ne porte jamais de fruit ? C'est un arbre qu'on va couper. Ou alors, on va se dire, il faut faire quelque chose parce qu'il y a un problème, il ne porte pas de fruit. Dans l'Église, si quelqu'un se dit chrétien, si quelqu'un dit qu'il a la foi, si quelqu'un a l'air de manifester une vraie foi chrétienne, il va porter du fruit. Il n'est pas souvent le mieux placé pour dire « Vous avez vu les fruits que je porte et tout ça. » Mais les gens le voient autour de lui. D'ailleurs, ça peut être bien parce que les gens qui culpabilisent trop, les gens qui complexent trop, eh bien, ils ont des frères et des sœurs qui vont leur dire « Mais si, ce que tu fais plein de choses qui sont bonnes. Je t'ai vu grandir, je t'ai vu progresser, je vois l'Esprit de Dieu qui travaille en toi. Et je vois surtout, tu recherches le bien. » Vous avez vu en fait ce que dit Paul ? Ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité. C'est-à-dire, on cherche l'honneur et la gloire et l'incorruptibilité. On cherche Dieu. On cherche les choses éternelles, les choses invisibles. On ne cherche pas notre petit plaisir, notre petit bonheur et même notre édification. À l'étude biblique, jeudi dernier, on disait qu'en fait, dans la formation, la petite formation qu'on a fait hier matin sur les visites, on disait qu'en fait, l'Église, elle doit grandir. Et la Bible parle souvent d'édification. Mais l'édification, vous savez, si vous allez dans une librairie chrétienne, il y a une rubrique édification. Et souvent, en fait, on parle d'édification personnelle. Je vais m'édifier moi-même, hein, je vais grandir, je vais croître. je vais devenir quelqu'un de fort. Ce n'est pas ça l'édification. L'édification, c'est quand on construit l'édifice. On construit l'église de Christ. L'édification, c'est communautaire. C'est pas moi qui arrête pas de penser à ma petite croissance, à mon petit bien-être, à mon épanouissement personnel. Je suis en train de penser aux autres autant qu'à moi, et peut-être même aux autres plus qu'à moi. Je voudrais les aider à grandir, comme moi je voudrais grandir. Je pense à la gloire, à l'honneur de Dieu, à l'incorruptibilité, à la perfection. Je veux essayer d'imiter le Christ, je veux vivre comme lui, même si je sais que j'y arrive pas. Je suis animé par ça. Et on peut rassurer des gens qui sont malheureux, qui disent « Oui, mais Pascal, ça fait 2 ans que je suis chrétien, il y a plein de trucs que je ne fais pas bien encore, je suis un mauvais chrétien, je suis une mauvaise chrétienne. » Tu veux obéir à Dieu. Tu veux l'aimer. Tu es malheureux ou malheureuse parce que tu n'y arrives pas bien. Mais c'est super. Tu es sur la bonne voie. Moi, je préfère ça que quelqu'un qui me dit « Pascal, ça fait 2 ans, maintenant je suis au top. » J'ai tout compris, je n'ai plus besoin de venir aux études bibliques et au culte, c'est bon. Hein, je suis un bon chrétien maintenant. Non, tu as tellement de choses à apprendre, et moi aussi. Et j'aimerais qu'on grandisse ensemble. Donc vous comprenez que ce que l'apôtre Paul dit dans la deuxième partie de ce passage qu'on a lu, dans la deuxième partie de cette série du, on est le combien, 29 septembre, hein, c'est pas sur Netflix encore, mais un jour peut-être, il n'est pas en train de nous dire qu'on est sauvé par les œuvres. On est vraiment sauvé par la foi. Il suffit de croire dans son cœur et de confesser de sa bouche. Mais confesser de sa bouche, ce n'est pas juste dire « je suis chrétien ». Cette confiance qu'on accorde à Dieu, elle va tout changer dans notre vie. Ça se fait petit à petit. Comme quand on apprend un instrument de musique, il y a des paliers. Moi, je dis souvent ça à des gens qui me disent « oh, mais en ce moment, j'ai l'impression que je ne grandis pas, je n'évolue pas, il faudrait faire quelque chose pour que ça aille plus vite ». C'est comme pour la musique. Comme pour le sport. Il y a des fois des longues périodes où on trime, hein, on fait des efforts, on travaille et on ne voit pas de progrès. Et puis des fois, d'un coup, hein, on passe un cap, un palier. Il y a des choses qu'on n'arrivait pas à faire à la guitare, on arrive à les faire. Il y a des obstacles qu'on n'arrivait pas à franchir ou des barrières chronométrées, hein, qu'on n'arrivait pas à franchir. Au marathon, c'est quoi? C'est le 36e kilomètre qui est très mauvais. Hein, 32e. Et on n'arrive pas à passer ce 32e, on s'arrête à chaque fois. Et puis un jour, à force de faire des fautes, on passe le 32e kilomètre. Ah ! Il ne faut pas qu'on se décourage avant d'avoir passé ces paliers. Et il ne faut pas qu'on se sente orgueilleux une fois qu'on a passé ces paliers. Et qu'on ait l'impression que c'est fini. Je pense que c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens de Rome. Dans ce passage qu'on a voulu étudier cet après-midi. Ne soyez pas des juges, ne vous prenez pas pour Dieu. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous avez été au bénéfice de sa grâce. C'est pas pour que vous deveniez des orgueilleux. C'est pour que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. Et prenez conscience que si vous êtes sauvés par la foi, cette foi, c'est une foi qui produit des œuvres. C'est une foi qui vous permet de réaliser les œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Il y a cette parole incroyable. Vous avez été créés pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Incroyable ce truc. Il y a des choses que Dieu attend hein, de nous. C'est préparé, c'est là, et il faut qu'on entre dedans. Il faut qu'on demande à Dieu vraiment de nous guider, et qu'on soit en lien avec lui, qu'on prie les uns pour les autres, pour qu'on puisse entrer dans ces projets de Dieu, et pour qu'on puisse être comme Dieu aussi, qui ne fait pas de favoritisme. Et je termine là-dessus. Vous avez vu qu'il y a plusieurs fois, on dit les Juifs d'abord, et les non-Juifs aussi. L'apôtre Paul est aussi en train de dire aux Juifs, et il va en rajouter une couche à partir du verset 12, ça ce sera pour la semaine prochaine, la suite de la série. Il dit aux Juifs en fait que ça les concerne eux aussi. Le salut, le risque d'être rejeté de Dieu, ça concerne les non-Juifs, les Juifs et les non-Juifs aussi. Dieu ne fait pas d'exception de personne, ce n'est pas parce que vous avez grandi dans le peuple d'Israël que vous êtes meilleur que les autres. C'est la confiance que vous allez accorder à Dieu. C'est parce que vous allez donner votre vie à Dieu que vous allez être sauvé. Et ce salut ne doit jamais être pour vous une occasion d'orgueil. Et Dieu va mettre tout le monde au même niveau et à la même place. Je pense que ça va aider l'église de Rome où il y a des juifs et des non-juifs qui sont devenus chrétiens. Mais ils leur disent, vous êtes pareil. Vous avez les mêmes problèmes, vous avez le même cœur, vous avez le même péché en vous. Même si les Juifs ont connu la parole de Dieu avant, même si Dieu les a choisis, il les a choisis pour qu'ils soient une bénédiction pour les autres. Pas pour qu'ils soient en train d'écraser les autres et de se sentir orgueilleux et de se sentir meilleurs et de penser que comme ils sont Juifs, ils n'ont plus rien à faire. Dieu remet les Juifs et les non-Juifs à leur place. Il ne fait pas d'exception de personne et nous, on devrait faire pareil. Donc quand il y a des gens qui rentrent ici, qu'ils soient riches ou pauvres, qui sentent le parfum ou plutôt les odeurs de la rue ou de l'alcool, qu'ils aient une façon de parler qui corresponde à notre niveau social ou au contraire, qu'ils aient un langage très fleuri, et bien on va les accueillir de la part de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas d'exception de personne. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et on prie pour que dans l'Église, il n'y ait pas de favoritisme. Et que ceux qui sont là depuis longtemps ne soient pas mieux traités que ceux qui viennent d'arriver il y a quelques instants. Et on pense là à ceux qu'on a croisés cet après-midi. On a eu un petit temps dans le jardin public, pas loin d'ici. Pierre, Sonia, Nadège ont eu l'occasion de discuter avec des gens, de prier avec eux. Ben, on prie pour que le travail de Dieu se fasse dans les cœurs. Que peut-être des gens se tournent vers lui, peut-être que des gens viennent dans cette communauté. Et pour qu'on puisse les accueillir avec autant d'amour que tous ceux qui sont là depuis longtemps. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions pour que tu nous donnes beaucoup d'humilité. Nous voulons te remercier parce que tu t'es révélé à nous, parce que tu nous as sauvés alors que nous ne le méritions pas. Et nous te prions pour que chaque jour nous puissions nous rappeler de ce salut non mérité. Que chaque jour nous puissions nous sentir petits et faibles. Mais que nous puissions réaliser aussi qu'avec ton esprit et avec ton aide, nous pouvons faire de grandes choses. Nous pouvons être capables d'amour, nous pouvons éviter le favoritisme, éviter le jugement. Nous te demandons de nous aider, Seigneur. Nous avons besoin d'être renouvelés, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Et nous te remettons tous ceux qui viendront un jour dans cette communauté, pour qu'ils puissent se sentir accueillis, aimés. Que nous puissions être patients avec eux et pour que nous soyons aussi pleins d'amour et pleins de courage et pleins de vérité. Seigneur, merci pour les paroles de l'apôtre Paul, merci pour ton esprit. Viens à notre secours maintenant. Amen. Amen.